Le Salon des Femmes rencontre un franc succès depuis hier à Nouville. De nombreux visiteurs ont fait le déplacement pour trouver sur place des stands variés. C'est reparti pour une saison d'animation au Big Up Spot de Coutio. Skate, roller, trottinette, mais aussi hip-hop et breakdance, c'était à découvrir aujourd'hui. Huitième jour de guerre au Moyen-Orient, les États-Unis ont frappé plus de 3000 cibles depuis le début de leur offensive en Iran. Israël indique avoir lancé des frappes de grande ampleur ce matin sur Téhéran. Sur l'autre front de la guerre au Liban, Israël poursuit ses bombardements contre les bastions du Hezbollah. 300 000 personnes ont dû fuir à travers le pays. Le sport en Calédonie avec un premier meeting sprint au centre régional de natation de Coutio. Une grande fête pour les nageuses et les nageurs calédoniens. Le rugby, quatrième journée du tournoi des Six Nations. L'équipe de France se déplace cette nuit en Écosse. En cas de victoire bonifiée, les Bleus invaincus dans la compétition remporteront le tournoi. Et puis George Russell sur Mercedes signe la première pole position de la saison 2026 de Formule 1. Le Français Isaac Hadjar a signé le troisième temps des qualifications au volant de sa Red Bull. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. Avant de développer tous ces titres, ce rappel, les élections municipales des 15 et 22 mars approchent et ce soir à 18h, c'est-à-dire dans un peu moins d'un quart d'heure maintenant, marque leur limite pour déposer les listes de candidats dans les quatre communes calédoniennes de moins de 1000 habitants, Belep, Farino, Moindou et Saraméa. Ces listes devraient être connues du public dès demain. Elles rejoindront les 123 listes déjà enregistrées dans les 29 communes de Nouvelle-Calédonie, qui, elle, dépasse le seuil des 1000 habitants. Dans l'actualité également ce soir, cette mission de rédaction de la future loi organique sur la Nouvelle-Calédonie. C'est une information révélée ce matin par nos confrères d'Outre-mer 360. Cette mission sera conduite par Patrick Gossy, qui est actuellement secrétaire général des Hauts-de-Seine, mais qui a été secrétaire général de la Nouvelle-Calédonie de 2013 à 2015. Il dirigera un comité rédactionnel composé de membres de la direction juridique du ministère des Outre-mer, qui devront travailler sur la rédaction de la future loi organique. L'objectif est de préciser les grands sujets du projet de réforme constitutionnelle issu des accords de Bougival et d'Élysée-Oudinot, notamment ceux sur la citoyenneté et sur le partage de compétences. Cette mission intervient alors que le projet de loi constitutionnelle a été, vous le savez, adopté par le Sénat le 25 février dernier. Il était transmis à l'Assemblée nationale qu'il examinera à partir du 31 mars. Mais l'on sait que l'adoption du texte par les députés est encore très certaines en raison des réserves des socialistes et du Rassemblement national. Le premier grand salon de l'année 2026, c'est le Salon des Femmes qui est organisé par Pacific Fair. Il a ouvert ses portes hier à la salle d'exposition de Nouville et continue jusqu'à demain, Michael Juneski.
Un rendez-vous qui rencontre un grand succès. De très nombreux visiteurs et surtout des visiteuses ont déjà fait le déplacement, une très belle affluence pour découvrir près de 80 stands avec une large variété de produits et de services proposés.
Très important et en plus, c'est pour le Salon de la Femme, pour la femme, donc on vient à l'honneur.
On s'est retrouvés quoi, dans ce qu'on a vu là-bas en premier, quoi. T'es contente, quoi.
Mais c'est très bien, ça fait du bien. Ça fait une petite balade.
C'était très très bien, la nourriture est sympathique.
Magnifique, parfait.
Super, oui, c'est très sympa. Très agréable, il y a beaucoup de jolies choses. Oui, vraiment, c'est vraiment sympa.
Je fais un peu de shopping, je regarde tous les stands. Non, c'est sympa.
On va dire que c'est à l'honneur des femmes et puis on trouve de tout. Et puis on est content que ils font une journée de la femme. Cette année, puis après on va dire aussi que avec ce qui se passe, on va dire le contexte actuel, c'est bien d'encourager, de soutenir l'initiative qui est mise en place.
Il y a également de nombreuses animations qui ponctuent les journées sur le salon. Des conférences et des temps d'échange sont également proposés en partenariat notamment avec la province sud. Le Salon des Femmes qui continue encore demain de 9h à 17h.
Culture et jeunesse, c'est reparti pour une saison d'animation du Big Up Spot de Coutio. Skate, roller, trottinette, mais aussi du hip-hop et du breakdance. C'était à découvrir aujourd'hui. Nadège Lagneau, déléguée générale de l'association Adamic, qui organise l'événement.
On est super content que le mouvement ait répondu et puis autant de petits, c'était l'objectif cette année. Pour nous, c'est une première, le Big Up Spot pour la Damic. Un samedi sur deux jusqu'à la fin de l'année, on va proposer et du battle de danse et des scènes rap, des journées K-pop. Enfin, il y a tout un tas d'activités. L'objectif, il est toujours à peu près sur le même concept. On fait des ateliers de préparation et puis on prépare pour l'événement qui suit, donc soit le battle, la scène rap. Et on est vraiment très contents et super motivés pour la suite de l'année.
Et les rendez-vous du Big Up Spot, ce sera à découvrir hein, toutes les deux semaines sur le site de Coutio. Des rendez-vous également demain, c'est au phare Amédée que se jouera la grande finale du championnat de barbecue de Nouvelle-Calédonie avec les 6 meilleures équipes en lice pour le titre. Enfin, demain toujours, notez le vide-grenier de la place des Cocotiers. Repartez la semaine dernière, il se tiendra de 7h à 12h30 et puis à Farino, bien évidemment. Ce sera le marché de Mamie qui ouvrira ses portes demain de 8h à midi. Quelques mots de l'actualité dans la région Pacifique à l'occasion du voyage officiel du Premier ministre canadien Mark Carney en Australie, où il a rencontré notamment son homologue australien Anthony Albanese. Canberra et Ottawa ont annoncé un renforcement notable de leur coopération dans plusieurs domaines. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Outre les questions relatives à l'économie, le commerce et les investissements, Mark Carney et Anthony Albanese se sont engagés à renforcer leur coopération militaire et sécuritaire. Ils ont ainsi décidé de créer une réunion biennale des ministres de la Défense et se sont engagés, je cite leur communiqué, à rechercher des occasions de renforcer et de formaliser l'interopérabilité et la conduite d'activités militaires conjointes dans l'Indo-Pacifique. Ceci, ont-ils expliqué, afin de garantir la liberté de navigation et de survol de la région. Ils ont aussi décidé d'approfondir la coopération en matière de renseignement par des échanges réguliers de personnel. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 17h52, on va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde.
Réglez bien la température de votre chauffe-eau. Une bonne température, c'est moins d'électricité consommée. Avec un mitigeur, l'eau reste à la bonne température et vous gaspillez moins. Les longues douches coûtent cher. Retrouvez toutes nos astuces sur le site EEC.
Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Femmes de talent, du 6 au 8 mars, rendez-vous à la salle des expositions de Louville pour la 19e édition du Salon des Femmes. Plus de 70 exposants, des animations gratuites tous les week-ends et des temps forts dédiés aux droits des femmes en Nouvelle-Calédonie avec les associations locales et la province sud. Salon des Femmes, du 6 au 8 mars à Louville, programme complet sur Facebook Pacific Fair NC.
RRB, première radio d'information.
Et venons-en à l'actualité à l'étranger. Le début d'un 8e jour de guerre au Moyen-Orient. Les États-Unis ont frappé plus de 3000 cibles depuis le début de leur offensive contre l'Iran. Israël, de son côté, a indiqué la nuit dernière avoir lancé des frappes de grande ampleur sur Téhéran. Donald Trump, de son côté, ne veut pas de cesser le feu sans capitulation de l'Iran. Le président américain qui assure travailler sans relâche pour relever le pays. Téhéran, de son côté, poursuit sa riposte puisque plusieurs missiles ont été tirés sur Tel Aviv, mais pas seulement. Frédéric Simon pour Europe 1.
Pas moins de 5 tirs de missiles balistiques iraniens vers le territoire israélien depuis 23h, heure de Paris. Les projectiles ont été interceptés et il n'y a ni blessés ni dégâts matériels. Hier encore, l'armée israélienne affirmait que le nombre de missiles tirés depuis l'Iran était en baisse. Les salves semblent en effet plus fréquentes mais moins fournies, ce qui facilite la tâche de la défense antiaérienne. De fait, les capacités iraniennes en matière balistique ont été considérablement réduites en une semaine de guerre. Plus de 60% des rampes de lancement ont été détruites par les aviations israéliennes et américaines. Les avions de chasse et les bombardiers continuent de pilonner les usines de fabrication de missiles, y compris souterraines, qui sont disséminées à travers le territoire iranien. Etzal a annoncé au cours de la nuit qu'elle lançait une nouvelle vague de frappes de grande intensité en Iran. Ce sont les infrastructures du régime des Mollahs qui seront visées prioritairement. Un incendie s'est d'ailleurs déclaré à l'aéroport de Mehrabad où les stocks de carburant ont été probablement pris pour cible hier. Le bunker dans lequel avait séjourné l'ayatollah Khamenei avant sa mort et qui servait encore aux dirigeants iraniens a été entièrement détruit. Le régime des Mollahs continue malgré tout de maintenir sa pression sur ses voisins du Golfe Persique. Des tirs de missiles vers Dubaï, le Bahreïn et l'Arabie Saoudite ont été signalés au cours de la nuit.
Frédéric Simon, le correspondant d'Europe 1 en Israël. L'Irak a également été touché ces dernières heures avec l'aéroport de Bagdad qui a été visé ou encore Erbil, c'est dans la région du Kurdistan iranien. Les Kurdes qui sont au cœur d'une stratégie américaine pour faire face menace, la riposte, pour faire tomber la République islamique. Les États-Unis peuvent être tentés d'exploiter les tensions ethniques internes à l'Iran, comme la carte kurde, un pari qui peut séduire les stratèges militaires, mais qui peut se révéler risqué à long terme. Explication Caroline Baudry d'Europe 1.
Au moins 6 heures de route séparent la capitale Téhéran des villes du Kurdistan iranien où les groupes armés kurdes pourraient enfin se soulever contre le pouvoir central affaibli. Une situation que redoutent les habitants, explique ce témoin dont la voix a été modifiée pour sa sécurité.
Il y a la peur de la guerre civile ici, que des villes deviennent plus violentes.
Car miser sur ce groupe ethnique qui revendique l'autodétermination pourrait menacer l'intégrité territoriale de l'Iran, pays complexe et multiethnique, rappelle Pierre Lelouch, ancien ministre et spécialiste des questions internationales.
Avec une moitié de la population qui est vraiment iranienne perse, et puis après vous avez une grosse communauté azérie, et puis vous avez une grosse communauté kurde aussi de l'ordre de 10 millions d'habitants. Tout ça fait beaucoup de monde, alors le problème c'est qu'on risque une situation qui sera ingérable.
Une situation qui impliquerait également les pays voisins. Les combattants kurdes iraniens pourraient être soutenus par le reste du Kurdistan qui s'étend sur 4 pays, l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie.
Caroline Baudry du service international d'Europe 1. Et sur l'autre front de la guerre, au Liban cette fois-ci, Israël poursuit ses bombardements contre les bastions du Hezbollah. Le Liban pilonné sans relâche par l'armée israélienne, 300 000 personnes ont dû fuir le pays. Emmanuel Macron, le président de la République, dit vouloir établir un plan pour enrayer la guerre et prévenir le pire. Le chef de l'État qui s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, et Joseph Aoun, le président libanais, lequel lui a demandé d'intervenir auprès d'Israël pour éviter que Tsahal ne prenne pour cible la banlieue sud de Beyrouth. Le Liban qui représente justement un enjeu majeur pour la France, Alexandre Chevaux.
D'une part parce qu'Emmanuel Macron entend perpétuer les liens d'amitié historiques entre Paris et Beyrouth, raison pour laquelle il a annoncé hier l'envoi d'une aide humanitaire dans la capitale libanaise, mais d'autre part parce que la France compte 800 soldats engagés dans la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban. En demandant à Benjamin Netanyahou de renoncer à toute offensive terrestre, le chef de l'État cherche donc à limiter tout risque de perte française au Liban, ce qui ferait prendre au conflit dans la région une toute autre tournure. Paris cherche donc en priorité à appuyer les forces armées libanaises, chargées de prendre le contrôle des positions tenues par le Hezbollah. Des véhicules de transport blindés seront notamment livrés par Paris, en plus d'un soutien opérationnel et logistique, annonce Emmanuel Macron. Reste que cet appel à un cessez-le-feu de la part du président français n'a pas été franchement entendu, puisque Tsahal confirme mener une nouvelle vague de frappe sur la banlieue sud de Beyrouth.
Et Alexandre Chevaux du service politique d'Europe 1 y a noté justement que le quartier général du bataillon de la FINUL a été la cible de 2 attaques à la roquette. C'était hier en fin d'après-midi, faisant des blessés parmi les casques bleus à Ghanéen. L'actualité en métropole et ce rebondissement à Nice à une semaine maintenant du premier tour des élections municipales où Christian Estrosi, le maire qui est candidat à sa propre succession, est dans la peine dans les sondages. Vendredi dernier, une tête de porc et une affiche antisémite étaient retrouvées, vous en souvenez peut-être, devant le domicile de Christian Estrosi. Mercredi, 2 suspects était interpellé. Une information judiciaire a été ouverte et d'après les informations de nos confrères d'Europe 1, eh bien l'un des 2 suspects est en réalité un proche de l'équipe de campagne de Christian Estrosi. William Molinet pour Europe 1.
Un Tunisien en situation irrégulière, il était ces dernières semaines en lien étroit avec l'équipe du maire de Nice, un homme au profil d'informaticien, très diplômé selon une source proche de l'enquête. Alors pourquoi et pour le compte de qui aurait-il déposé cette tête de cochon? Il est trop tôt pour dire qui sont les commanditaires, avance prudemment un policier. Plusieurs pistes sont explorées. L'équipe de campagne s'est-elle faite infiltrer par des individus malveillants? La DGSI s'est penchée sur l'affaire, mais n'a pas décelé à ce stade d'ingérence étrangère. Reste une hypothèse, celle d'une manipulation, une prétendue fausse action antisémite pour renforcer l'image de Christian Estrosi comme le seul à même d'incarner la défense des Juifs. C'est une possibilité, mais il faut encore démêler tout cela, poursuit une source proche du dossier. De son côté, Christian Estrosi met en avant la thèse de l'infiltration. Il se félicite de l'interpellation rapide du suspect. Son avocat a indiqué qu'il allait se constituer partie civile dans ce dossier.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Il est 18h sur Radio Rythme Bleu. Une dernière pause dans un instant. Sport et météo.
Rendez-vous à l'Hyper Auto Show du groupe Jando sur le parking du centre commercial Hyper Upaita du samedi 28 février au dimanche 8 mars. Plus de 10 marques représentées, des nouveautés hyper exclusives, des déstockages hyper massifs, des promos hyper intéressantes, des jeux, des animations et des solutions de financement. Ce serait hyper dommage de rater ça. L'Hyper Auto Show jusqu'au 8 mars au centre commercial Hyper Upaita, un salon organisé par le groupe Jando. Plus d'infos sur la page Facebook. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Allez, on ouvre la page de sport de ce journal. On commence avec le sport en Calédonie et de la natation avec le meeting du club de Dimbéa qui se déroulait cet après-midi, Mickaël Genesky.
Une grande réunion de la famille de la natation calédonienne au centre aquatique Guy Verlaguet de Dimbéa. Les jeunes à l'honneur, notamment Leïna Mackenzie qui a décroché le titre de championne de France Benjamin sur 200 mètres 4 nages, mais aussi de vice-championne de France sur 50 mètres nage papillon et 50 mètres nage libre. C'était en décembre dernier.
Franchement, c'est top. Ça fait du bien d'être connu, c'est agréable que de voir que les efforts ça paye. Après, ça va avec tout, il y a des sacrifices, etc. Il y a des choses à faire pour gagner comme ça. Mais franchement, ouais, c'est top, je suis contente.
Un rendez-vous ce samedi à Dimbéa qui se veut récréatif et convivial avant tout. Manina Tei, présidente de Dimbéa Natation.
Pour une première édition, on est extrêmement satisfait, on ne s'attendait pas autant. C'est sportif et c'est joyeux, ça crie, mais c'est super. C'est surtout notre premier meeting sprint, là, on le veut plus festif qu'avec cet esprit de compétition, mais c'est surtout de pouvoir faire partager des plus jeunes de 11 ans jusqu'aux plus âgés. Et on a en plus invité cette année aussi le sport adapté dans notre meeting. Donc là, vraiment, l'esprit de ce meeting, c'est familial, c'est reprendre voilà, le goût dans la compétition de la natation et faire partager des plus grands aux plus petits voilà, ce sport-là.
Et plus de 150 nageurs issus de tous les clubs du territoire étaient engagés aujourd'hui.
Le reste du sport, Mickaël, tout d'abord du football, avec la reprise de la Super League.
Première journée, premier résultat de cette nouvelle saison qui débute avec la victoire au stade Noumadélé d'Horizon Patho sur le Mont d'Or sur le score sans appel de 4-0. En ce moment même, l'ASC Gaïcha affronte le CA Saint-Louis, toujours sur la pelouse du stade Noumadélé. Avantage à Gaïcha, 1-0 après 26 minutes de jeu. Demain, l'AS Lossi retrouvera le SC Negeo. Du ballon rond au ballon ovale, un match amical en ce moment même, le 15 du Pacifique, vous le savez, qui affronte au stade Rocky Waitanaki de Dimbéa la sélection calédonienne. Les Cagous ont pris l'avantage, 12-8. C'est le deuxième match, on le rappelle, de l'équipe militaire sur le territoire après la confrontation face au Mont d'Or le week-end dernier, remporté par le 15 du Pacifique. Et puis, en golf, la deuxième édition de la Ryder Cup calédonienne qui se joue à Bouraille sur les greens de Deva. Comme l'année dernière, deux équipes de 18 joueuses et joueurs se retrouvent pour un affrontement sudiste broussard, c'est-à-dire les clubs de Dimbéa et Tina contre Lawangi et Deva. Ça continue demain encore lors de la première édition. C'est l'équipe des broussards qui s'était imposée.
Allez, ce rendez-vous inédit à présent, il se déroule depuis ce matin à Nouméa. Ça s'appelle la Tactical Race.
Premier événement du genre, en effet, organisé au stade Pentecôte et dans la salle omnisport de Lansvata. Le principe est original. Un enchaînement de deux tours de stade, puis des exercices en salle de type fitness à chaque tour. Près de 250 participants sont inscrits sur les deux journées. À l'heure de la découverte, ils étaient ravis.
C'est super cool que ce soit organisé en Calédonie. On en profite pour pouvoir le faire. En plus, on a de la chance, il ne pleut pas aujourd'hui. Bon, il fait un peu chaud quand même. Mais ça va le faire. En tout cas, c'est vraiment cool d'avoir organisé ça.
C'est un vrai plaisir d'y participer. En plus, j'ai appris il y a deux jours que c'était la première. J'avais pas fait attention. Et c'est un vrai plaisir de participer à ce genre d'événement ici. Voilà, ça regroupe un peu le running, le crossfit. Tout le monde est réuni et c'est un grand plaisir.
Vu que c'est une première édition, c'est quelque chose de nouveau pour nous. Donc, c'est le moment de tester.
Et de pousser ses limites, surtout aussi, connaître un peu plus son corps. Hein. Ça se trouve, ça peut nous plaire pour les futurs sports. Hein. Voilà, quoi.
Moi, je participe en tant qu'amateur, donc c'est aussi pour me challenger et montrer un peu ce que je veux par rapport au reste de la Calédonie. Donc, c'est intéressant.
C'est quoi qui fait le plus peur ? C'est les tours de stade ? C'est les exercices à la
matériau, c'est quoi?
Bon, en fait, c'est qu'à un moment donné, on se met trop dans le rouge et qu'on n'arrive pas à repartir. C'est ça qui fait peur, en fait. C'est d'aller vouloir chercher un chrono jusqu'à se mettre mal et en fait, c'est ce qu'il faut pas faire, quoi. Donc, c'est là qu'il faut gérer le mieux, quoi.
Et les catégories en solo et en duo sont proposées. Les gagnants seront ceux qui réaliseront le meilleur chrono sur l'ensemble des passages. Un événement qui continue demain encore.
Allez, venons-en au sport en métropole et dans le monde. Et cap sur le rugby avec la 4e journée du tournoi Destination.
Performance, engagement, dépassement de soi. Entrez dans la mêlée des pages spéciales tournoi Destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. OPT, le monde à portée de main.
Et le 15 de France qui se déplace la nuit prochaine en Écosse, toujours invaincu et plus que jamais dans la course au Grand Chelem. Mieux encore, une victoire bonifiée demain suffirait mathématiquement à sacrer les Bleus dans le tournoi. Mais le capitaine Antoine Dupont préfère garder les pieds sur terre et refuse d'évoquer le Grand Chelem ou un succès prématuré.
L'objectif, c'est déjà de gagner le match. On sait combien les déplacements ici sont difficiles. On n'a pas besoin de parler de la qualité de l'équipe d'Écosse, encore plus depuis le début de ce tournoi. Donc notre principal focus, il est là pour le moment, on aura le temps de voir la suite.
Et rappelons que deux Calédoniens sont dans le groupe France, Rodrigue Netti et Peato Maovaka. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 1h10 du matin. En deuxième partie de nuit, 3h40, l'Italie croisera le fer avec l'Angleterre. L'Angleterre qui sera d'ailleurs le prochain adversaire des Bleus, ce sera dans une semaine. Enfin, l'Irlande a ouvert cette 4e journée du tournoi des Six Nations en s'imposant face au Pays de Galles sur le score de 27 à 17.
Jusqu'au 14 mars, suivez le tournoi des Six Nations sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Allez, place au football avec la 25e journée du championnat de France de Ligue 1. Elle a débuté ce matin par une surprise de taille, le Paris Saint-Germain qui s'est incliné devant l'AS Monaco sur le score de 3-1. C'était en match d'ouverture. Résultat inattendu pour le leader parisien qui tombe au pire moment puisque les hommes de Luis Enrique retrouveront, vous le savez, Chelsea la semaine prochaine en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Revers à domicile pour les Parisiens qui fait l'effet d'un avertissement. La journée se poursuit demain avec plusieurs affiches. Nantes recevra Angers pour un derby de l'Ouest. Auxerre accueillera Strasbourg dans un duel entre équipes en quête de points précieux. Enfin, Toulouse défiera l'Olympique de Marseille. Un choc qui s'annonce animé puisqu'il y a quelques jours, les Toulousains avaient éliminé l'Olympique de Marseille en quart de finale de la Coupe de France.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
La Formule 1 et on courait cet après-midi la première séance de qualification du premier Grand Prix de la saison sur le tracé de l'Albert Park de Melbourne. Et demain, au moment du départ de ce Grand Prix, ce sont deux Mercedes qui seront en première ligne. George Russell, le Britannique, a signé le meilleur temps de la qualification. Il a devancé son coéquipier, l'Italien Kimi Antonelli. Sur la deuxième ligne, la très belle perf d'Isaac Hadjar, le Français qui a signé le troisième temps au volant de sa Red Bull. Il aura demain à ses côtés sur la deuxième ligne la Ferrari de Charles Leclerc. Oscar Piastri qui joue à domicile sera en troisième ligne avec à ses côtés le champion du monde en titre, Lando Norris de McLaren, donc sur la troisième ligne. Et Max Verstappen, où est-il? Eh bien, il partira de l'avant-dernière ligne. Le quadruple champion du monde s'est manqué dans son tout premier tour chronométré en Q1. Sa Red Bull a fini dans le mur au tout premier virage. Ça arrive même au meilleur. Côté français, Esteban Ocon a signé le 13e temps au volant de sa Haas. Pierre Gasly, le 14e au volant de son Alpine. Le Grand Prix d'Australie, première manche du championnat du monde de Formule 1. Ce sera à suivre demain. Le départ à 15h.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1, parrainée par Shell et Pacifique. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2026. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Et quelques mots de sport d'hiver pour terminer avec cette belle perf en biathlon. Le français Éric Perrault a décroché le petit globe de cristal de l'individuel lors de la manche de Coupe du Monde qui s'est disputée en Finlande. Nouvelle consécration pour le tricolore qui brillait déjà, souvenez-vous-en, il y a quelques semaines, c'était aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Cette fois, c'est en Finlande qu'il a frappé fort, impérial sur le pas de tir avec un 20/20, redoutable sur les skis. Il a dominé la course de bout en bout et a franchi la ligne avec 30 secondes d'avance d'avance sur ses deux poursuivants norvégiens. Mais ce n'est pas tout. Éric Perrault trône également en tête du classement général de la Coupe du Monde. À seulement 3 manches de la fin de la compétition, le gros globe de cristal, c'est la récompense suprême de la discipline et plus que jamais à sa portée. On termine ce journal avec la météo.
Socaport Peinture vous présente la météo. Socaport Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, l'Unicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socaport Peinture, c'est à Ducos.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Ismaël. Et tout à l'heure, je regardais en direction de la chaîne et ça s'était chargé en images.
Eh hein. Ben oui, vous avez bon œil, bon nez. Je ne sais pas, mais un des deux, c'est certain.
Et bon pied aussi.
Puisqu'on pour un sabot. Ouvre ce bulletin.
Pardon.
On ouvre ce bulletin avec une vigilance jaune, forte pluie orage, demain après-midi de Thio à Yengen pour un risque d'orage localisé. Cette nuit, quelques ondées circuleront encore sur le nord-est en début de nuit, alors que les nuages bas intéresseront encore une grande partie de la côte est. Partout ailleurs, le ciel sera bien étoilé ou voilé par des nuages circulant en altitude. Le vent sera souvent variable faible, soumis au régime des brises côtières, et les températures minimales resteront comprises entre 23 et 25 degrés. Voilà pour le bulletin.
Un petit mot pour demain, non ?
Ben, si vous voulez.
Oui.
Les nuages d'altitude seront nombreux au lever du jour, mais le temps restera sec. Mmh. Quelques nuages bas circuleront également sur le sud de la côte ouest et le vent s'établira progressivement au secteur ouest entre 5 et 10 nœuds et il sera variable faible le long de la côte est. Satisfait Lionel ?
Oui, ça va aller. Merci beaucoup.
C'est parfait, merci Ismaël. À vous.
C'est la fin de ce journal, il est 18h12. Merci de nous avoir suivis, journal qui sera disponible d'ici quelques instants. Réécoute sur notre site internet, c'est le www.rrb.nc. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur l'antenne de Radio Rythme Bleu.